Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
La famille, le grand-père sénile, la tante bourrée et le cousin relou. Saviez-vous que même les langues doivent supporter leur famille ? Alors évidemment, on ne va pas forcément avoir des cousins relous, des tantes bourrées, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Par contre, on sait qu'il y a des langues filles qui descendent d'une même langue, à votre avis ?
Mère ?
Oh, bien joué, on voit que Axel est un peu plus vivace intellectuellement que nous. Et justement, pour en parler aujourd'hui, on a Axel.
Bonjour.
Et Louis à la technique.
Bonjour.
Qui est encore sur son portable. Il nous manque juste Morgane, mais vous inquiétez pas, ne paniquez pas, elle revient très bientôt. Donc Louis, aujourd'hui, va nous parler de la famille des langues indo-européennes et Axel de toutes les autres familles. Parce qu'on est un petit peu indo-européano-centré, on n'en a rien à foutre des autres langues. Et moi, je vais vous parler des exclus de la société, des renégats, des langues qui sont rangées nulle part. Et pour nos chroniques, je vous parlerai d'une faute d'actualité. Avec Axel, on fera un petit jeu sur l'étymologie, puis Louis va nous raconter son enfance. Bah d'ailleurs, Louis, on va commencer par toi. Tu vas nous parler de la famille des langues indo-européennes. Personnellement, je sais juste qu'il y a des langues qui sont en Inde, des langues qui sont en Europe. J'espère que tu en sais un peu plus.
Non, mais je trouve que c'est un très bon résumé. On pourrait même s'arrêter à là. Il y a des langues en Europe et il y a des langues en Inde. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus, et dans le nom, c'est indo-européen. Bon alors, effectivement, hein, pour parler des groupes et des familles de langues, on peut que commencer par les langues indo-européennes. Il s'agit bien là d'un groupe de langues allant de l'Europe jusqu'à l'Inde. Bon, Azilis vous a un peu spoilé du coup. Et qui partagent suffisamment de points communs linguistiques pour être insérés dans la même famille. Au final, c'est ça le plus important. Hein. C'est comme mon patron me le dit, on est tous une seule et même famille. Cela ne va tout de même pas de soi, même à l'entreprise. Il peut être difficile de justifier l'appartenance ou non à cette famille de langues. Elle a même été qualifiée de problème le plus récalcitrant et pourtant le plus étudié de la linguistique historique. Waouh, oh. Ça annonce. Hein. Bon alors, comme son nom l'indique, la famille des langues indo-européennes regroupe la plupart des langues parlées aujourd'hui en Europe, mais aussi l'hindi, le persan, le sanskrit, ou encore des langues mortes comme le latin ou le hittite. Pour classer ces langues dans un même groupe, et ça c'est pareil pour tout le monde, on se base sur leur similarité concernant des mots du langage courant. Donc par exemple, mère se dit mother en anglais. Alors vous allez excuser mon accent hein, pour toutes les langues que j'ai massacrées. Mutter en allemand, mater en latin, mais également madar en persan et matre en sanskrit. Je suis à peu près certain qu'on ne dit pas ça comme ça, mais j'assume. On voit bien dans leur son que ces mots sont assez proches. Or, si des langues se ressemblent et appartiennent à une même famille, c'est qu'elles ont une origine commune. Bon, on simplifie un petit peu. Bien avant l'invention de l'écriture, il aurait donc existé une langue primitive, l'indo-européen, dont il ne reste aujourd'hui pas vraiment de traces. Hein. On n'a pas de traces archéo, on n'a pas de traces écrites. Mais du coup, c'est une langue dont descendraient toutes les langues dites indo-européennes actuelles. On sait évidemment presque rien de ces langues primitives, de cette langue primitive, mais on pourrait imaginer une origine étymologique aux différentes itérations du mot mère que je viens de citer, dans cette langue indo-européenne. On peut toutefois pas vraiment le savoir, vu comme je viens de dire, y a pas de traces archéologiques, hein, ils n'ont pas écrit sur des murs leurs mots, et ils l'ont pas écrit non plus sur du papier, ou alors on les a pu ces papiers. En plus, le papier, ça n'existait pas à l'époque. C'est pas facile. Donc si toutes les langues indo-européennes descendent d'une langue primitive commune, quel était donc le ou les peuples qui parlaient cette langue et où est-ce qu'ils pouvaient se situer à cette époque-là? Pour essayer de répondre à cette question, on se base généralement sur des éléments évidemment de linguistique et d'archéologie. Il existe donc de nombreuses hypothèses quant à l'origine des langues indo-européennes, mais deux semblent les plus vraisemblables. L'hypothèse dite « kourgane » et l'hypothèse « anatolienne ». Alors selon l'hypothèse dite kourgane, l'indo-européen viendrait d'un peuple à peu près nomade qui a vécu il y a 6 ou 7 000 ans autour de la mer Noire, enfin près de la mer Noire. Donc c'est aux environs hein, de la Russie, de l'Ukraine, la Crimée. Et donc c'est un groupe nomade par ses migrations qui aurait permis la diffusion de la langue. L'autre hypothèse, donc l'hypothèse dite anatolienne, c'est dans le nom, l'indo-européen trouvait son origine en Anatolie. Donc c'est la partie orientale de la Turquie. Et ça se serait fait il y a environ 8000 ans, environ aux apparitions à l'apparition de l'agriculture, et du coup la langue se serait répandue avec l'agriculture, de la même manière que l'agriculture. Bon, on plantait pas les mots, mais vous voyez l'idée. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse Kurgan hein, qui est considérée comme la plus vraisemblable, mais depuis quelques années slash décennies, il y a d'autres scientifiques qui remettent un peu cette hypothèse-là en question, dont un, Quentin Atkinson, qui jette un peu le trouble, qui jette un peu le doute sur ces hypothèses. Bon, du coup, pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'origine commune des langues, on peut essayer de regrouper les langues par arbre, un peu comme pour les espèces animales. Hein. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Donc, c'est, enfin, par arbre ou par famille, c'est quand on fait des petits traits, plein de petits traits, et on dit, bah, toutes ces langues-là, elles viennent de cette langue-là, qui elle-même vient de cette langue-là. Et pour faire ça, on se base sur des similarités entre des mots des différentes langues, hein, ce qu'on s'appelle des cognats ou des cognats, je n'ai pas réussi à savoir comment on le dit. Donc on l'a vu, le mot mère, c'est un cognat pour la plupart des langues indo-européennes. Et en recensant l'ensemble des cognats d'un groupe de langues, on peut alors placer les langues les unes par rapport aux autres et identifier les cognats qui se sont différenciés d'une langue à l'autre. L'équivalent linguistique des mutations en génétique. On peut aller un peu plus loin en s'intéressant au moment où ces langues se sont séparées pour former à terme nos langues intellectuelles. C'est la glottochronologie. Ça fait beaucoup de beaux mots. Hein. On apprend des mots à langue de prune.
On les oublie juste après.
Hein. Oui, bon, enfin, bon, au moins on pourra dire qu'on l'a dit. En linguistique, du coup, la glottochronologie se base sur un taux moyen de mutation constaté sur les langues. On sait en gros que si deux langues se séparent à un moment donné, elles vont perdre environ 20% de leurs mots communs sur un petit millénaire. Une bagatelle. Et en comparant la quantité de similarités ou de disparités entre deux langues, on peut du coup plus ou moins dater leur séparation. Et c'est en utilisant ce genre de méthode que ce fameux Atkinson, dont je parlais un peu plus tôt, en 2003, il a fait une reconstitution de l'arbre des langues dans le temps et montre que les langues indo-européennes auraient environ 9000 ans. Donc bon, les deux hypothèses qu'on a vues, Kurgan, Anatolienne, ça va, c'est entre 7 et 8 000 ans. On n'est pas à un millénaire près à langue de prune. Ce même auteur, il a aussi publié une autre étude, un peu plus tard, sur la modélisation géographique de l'évolution des langues. Donc, pour permettre de savoir où est-ce que les langues ont évolué. Et du coup, avoir peut-être l'origine géographique de l'indo-européen. Pour cela, il a utilisé une technique inspirée de ce qu'on utilise pour suivre les épidémies. Ce genre de méthode, donc ça modélise à la fois les mutations des virus, la propagation géographique, bon, on a vu ça un peu avec le Covid, hein, et ça permet de remonter à l'origine d'une épidémie et à la souche initiale du virus et de reconstituer l'histoire de ces mutations et de sa diffusion spatiale. Et donc en traitant la langue comme un virus, on peut mettre un modèle de ce type sur les données et surtout sur les cognats, encore une fois, hein, toujours ces cognats, et ça permet d'avoir l'histoire et la géographie des langues indo-européennes actuelles et disparues. Et on a une probabilité de l'origine de l'indo-européen dans telle ou telle partie du monde. Et du coup, cette théorie, ça favorise une diffusion des langues indo-européennes depuis l'Anatolie. Ce qui va à l'inverse de la théorie favorisée par les spécialistes. Donc ça montre que... bon, ces études, elles ont quand même une bonne petite décennie. Hein. Bon, par rapport à l'évolution des langues sur plusieurs millénaires, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça montre que même si ces langues sont étudiées depuis pas mal de temps, bah ça reste encore des sujets qui sont très actuels. On n'est pas encore vraiment trop sûr, l'indo-européen, qui, quoi, où, comment, lequel est ses dérivés. Et voilà, ça fait un petit tour géographique et historique de l'indo-européen.
Merci beaucoup Louis. Tu nous as parlé d'une langue indo-européenne, le sanskrit. On va justement écouter un morceau en sanskrit. Le sanskrit, c'est une vieille langue qu'on trouve maintenant surtout dans les textes religieux. C'est un peu la grand-mère bigote de la famille indo-européenne, celle qui a un portrait de la Vierge Marie au-dessus de sa cheminée et qui traîne à la messe. Donc, on va écouter tout de suite Nimantran de Slovige.
Boom! सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा रफ्तारे कृष्ण मुफाड़े कर्म इस तैरे एमसी बंटाई सर्व किंचित न अस्ति मम लेखे अग्र संगीत कारे नामे गंधर्व दृष्टवा इदम दृष्टवा सर्वे महत कुछ कुकरा मम नाम ने सह एम श्लोक शक्ति वस राहु केतु व शुक्रा स्याही सरस मम वर्ण सूर्य ते सर्व कर्ण च अहम सूर्य तत सर्व रेणु मम अग्र धूल मम तप्त पत पादस्य शूल आयांति यांति विहीनानि तथ्य च मुहुर् मुहुर् कुर्वन्ति क्रीडा इति त्यस्ति नाम उत भर्ति या बच शंसन्ति त्वरितर पीड़ा हीरा एकम एक अंडरग्राउंड कलाकार अस्ति सर्वे कुर्वन्ति हिप हॉप प्रचार मेन स्ट्रीम किन्तु दिश्चापति अस्ति किम परिभाषा रैप किम त्वम दृष्टवा किम मम भाषा रैप किम त्वम श्रुत्वा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा नामने रफ्तार किंचित न तेज कलकूट नीत ज्ञाने विशेष श्रोतार श्रुत्वा गुरु भाति पूज्य गुरु वाण्यां विचरन्ति द्वेष एमिव कृष्ण मुफाड़े त्रिकोण नीति लोके जानितानि एकम एक कुर्वन्ति वार्च प्रतिवार्च भाषा पाषाणि ते अपि जानन्ति अंततः प्राप्त नोति लाभस्य कर्म च श्रोता वाचति किम किमर्थम च न ददाति इति तस्य धर्मे किम त्वं श्रुत्वा लेखनि मम उत्थाय चलित अध्यास्यतां बहुदूरं मम श्लोकवाणी बहुदूर हि लेखनि सीमायां लेखे अश्मंच ताल न बस शीतवाणी जस चंद्र बस तप्त क्रोधे मम विस्मरतु पुनः आगच्छतु इति कथयतु मौनमेव उचितं न अस्ति ज्ञान धीर त्वं सर्वमहत् अल्प किमर्थम वेत्ति अहं श्लोकस्य एक ही पूर्ण जगत् सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्णे अमन परिपक्व पूर्ण कलाकारे नास्ति ते शत्रवा
Langue de prune.
Vous êtes sur Prune 92 FM et on vient d'écouter Niman Tran de Schlovige. Et maintenant, parlons un peu d'actualité.
À qui la faute ?
Jusqu'à il y a peu, j'étais insouciante. Pour moi, les chasubles, c'était des filets fluo imbibés de sueur qu'on se mettait sur le dos en cours de PS. Et puis, il y a eu le 19 janvier 2023. Le mouvement contre la réforme des retraites est arrivé. Et avec lui, un déferlement de chasubles syndicaux. Des chasubles rouges CGT, des chasubles solidaires de toutes les couleurs. On en a vu en manif, sur les piquets de grève, en blocage. La légende raconte même qu'à Saint-Nazaire, un CGTiste irait faire son marché avec son chasuble. Les chasubles sont devenus le centre de l'attention. Tellement convoité qu'une policière nantaise en a pris un en otage et ne l'a rendu qu'en échange de ses papiers d'identité à l'homme sous le chasuble. Et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais il y a des hommes et des femmes sous les chasubles. Et puis, avec toute cette attention autour des chasubles, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. On a commencé à entendre « on dit la chasuble, pas le chasuble ». Et c'est devenu un des principaux sujets de conversation sur les périphes bloqués et au milieu des feux de poubelle. Certaines personnes, visiblement en manque de pouvoir, ont eu envie d'affirmer leur autorité en nous disant comment parler, sans argument en plus. Alors du coup, j'ai essayé de chercher ces fameux arguments. Et j'ai découvert qu'à l'origine, la chasuble, c'est un vêtement que les prêtres mettent par-dessus leur aube, la grande robe blanche, pour célébrer la messe. Et dans ce sens-là, le mot est clairement féminin. On dit une chasuble. C'est pour ça que si on ouvre un dictionnaire, on va trouver une chasuble.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts. Nous allons tout nus, c'est nous les canuts, nous allons tout nus.
Mais bon, le mot maintenant est surtout utilisé dans le domaine du sport, ou des cours de PS, et un petit peu dans du syndicalisme, mais dans une moindre mesure. Et quand on l'utilise dans ce sens-là, on le trouve souvent au masculin. Alors ça, j'ai pas vraiment trouvé pourquoi. Mon hypothèse d'utilisatrice ponctuelle de chasubles, c'est qu'en sport, on utilise souvent le mot au pluriel. On dit souvent « Allez, c'est les chasubles rouges contre les sans-chasubles » ou « Prenez vos chasubles, dépêchez-vous ». Donc peut-être que du coup, le féminin s'est perdu comme ça. Et je sais pas, vu que le sport, c'est pour les mecs, c'est devenu un mot masculin. Là, j'extrapole beaucoup. Bref, on peut dire un ou une chasuble, mais c'est quand même un peu bête de se forcer à dire une chasuble juste pour faire plaisir au curé. Dans tous les cas, je continuerai à dire à mes élèves qui se battent pour avoir un chasuble de leur couleur préférée, on ne choisit pas son chasuble. Et maintenant qu'on a enfin tranché ce grand débat d'actualité qui personnellement me perturbait beaucoup, on va écouter Axel qui va nous parler de toutes les autres familles de langues qu'il y a et nous ouvrir les yeux.
Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, je vais vous parler de la deuxième famille avec le plus de locuteurs, la deuxième famille de langue la plus grande, après, vous l'avez deviné, l'indo-européen. Et cette famille-là, c'est la famille sino-tibétaine. Et peut-être qu'avec le nom, vous vous en doutez, en fait, la raison pour laquelle c'est la deuxième famille avec le plus de locuteurs, c'est principalement en fait dû aux 1,3 milliard de locuteurs natifs des différentes langues chinoises. C'est vraiment l'écrasante majorité dans cette famille-là. En fait, cette famille, elle comprend donc du coup toutes les langues chinoises, le tibétain, le birman et toutes les langues qui sont autour. Et en fait, plein d'autres langues qui sont parlées par des communautés très isolées dans les montagnes de l'Himalaya avec peu du coup de locuteurs. Ça représente 400 langues en tout. Le tibétain, le birman, le chinois, c'est des langues avec une histoire littéraire importante, ce qui fait qu'il y a pu avoir beaucoup de recherches dessus et on a pu relever, souligner des similarités de vocabulaire dans ces langues, comme Louis a pu parler sur les langues indo-européennes. Après cette grande famille-là, la troisième plus grande famille, c'est les langues nigéro-congolaises. En fait, ça va être quasiment la totalité des langues subsahariennes, donc parlées en Afrique. Ça représente quand même 1526 langues par rapport aux 400 langues que je citais plus tôt, et donc 21% des langues de la planète parlées aujourd'hui, en nombre de langues, parce qu'en nombre de locuteurs, c'est 459 millions de personnes. Et en fait, la moitié de ces langues-là, elles sont parlées par moins de 29 000 personnes à chaque fois, donc c'est beaucoup de langues parlées par très peu de personnes. Il y a 15 branches différentes de langues dans cette famille, c'est vraiment un arbre généalogique immense. Et je ne vais pas vous lister les 1526 langues, mais celles qui sont, on va dire, connues, ça va être par exemple le Swahili, le Soussou, le Bambara, le Yoruba, le Xhosa, le Zulu. Voilà, en fait, quasiment toutes les langues dont on parle quand on parle de l'Afrique subsaharienne sont dans cette famille-là. Et après, la quatrième famille avec le plus de locuteurs, vous pouvez peut-être le deviner, c'est les langues chamito-sémitiques. Quand je dis ça comme ça, ça vous dit peut-être rien. Donc c'est 350 langues et c'est 410 millions de locuteurs. Et en fait, ça va être l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique et donc l'arabe qui est la plus parlée de assez loin dans cette famille-là, encore une fois, parce que c'est 290 millions de locuteurs sur les 410 millions au total pour cette famille-là. Donc du coup, l'arabe, toutes les langues berbères aussi. Une langue célèbre de cette famille-là, on peut dire, c'est l'égyptien ancien, en fait, qui était du coup une des formes les plus anciennes de cette famille. Et puis, du coup, le descendant de l'égyptien ancien, c'était le copte, et qui est éteint et plus pratiqué aujourd'hui, à part à l'écrit de manière, on va dire, littéraire. Toutes les langues aussi tchadiques. Donc là, en fait, c'est quand même 200 langues dans cette famille-là sur les 350. Et du coup, ça va être l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, principalement le Haoussa, qui est présent au Nigeria, Niger, et qui est parlé par 77 millions de locuteurs. Et en fait, sur les 200 langues tchadiques, toutes les autres ont 200 locuteurs ou moins, et en fait beaucoup, la plupart beaucoup moins de 200 locuteurs. Donc encore une fois, en fait c'est plein de petites langues avec peu de personnes qui les parlent. Donc ça c'est des familles de langues en fait où on a pu établir des parentés linguistiques, des liens linguistiques, et créer en fait un arbre généalogique assez précis, même s'il y a toujours évidemment des recherches en cours, etc. Mais il y a aussi des familles de langues en fait, qui sont plus géographiques. C'est des zones où il y a plusieurs familles de langues, il y a peu de locuteurs. En fait, généralement, il n'y a pas ou peu de liens entre elles. Et elles sont regroupées par proximité géographique. Et en fait, c'est surtout que généralement, on a peu d'informations sur ces langues-là. Donc, par défaut, on les regroupe un peu ensemble, même si on ne sait pas exactement... même si on ne sait pas beaucoup de choses sur elles. Un exemple qui représente bien ça, c'est les langues aborigènes d'Australie. Ça représente quand même 300 langues sur le territoire du coup vraiment de l'île australienne et les îles autour. Donc si vous pensez aux grandes familles que j'ai citées plus tôt, c'est quasiment autant. Et en fait, pour ces langues-là, l'étude est très compliquée parce qu'il y a peu de locuteurs, il n'y a pas de traces écrites aussi. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont complètement disparu du fait de la colonisation et souvent de manière très rapide. En fait, au sein de cette famille, il y a un groupe, les langues Pama-Nyungan, je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, qui sont en fait parlées dans quasiment toute l'Australie, à part vraiment le nord et les îles autour. Et en fait, du fait qu'on sache très peu de choses sur les langues ou sur ce groupe-là, on ne sait pas, par exemple, dans quel ordre elles sont développées, pourquoi est-ce qu'il y en a autant qui sont de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si... les langues Pama-Nyungan étaient présentes en Australie et après il y a d'autres langues qui sont arrivées et qui sont installées petit à petit au nord et en fait qui petit à petit se développaient. Ou si c'est l'inverse, et si c'était des langues qui étaient déjà présentes et la langue Pama-Nyungan qui s'est développée et qui a pris le dessus, on va dire, sur les autres. Parce qu'encore une fois, en fait, comme on n'a aucune trace écrite et comme on a peu de traces de ces langues-là, l'étude est assez compliquée. Par exemple, les langues des aborigènes de Tasmanie sont presque complètement perdues. Il ne reste que quelques listes de mots. Et en fait, là, c'est du fait très évident de la colonisation, comme le reste de l'Australie, mais c'est vraiment un point particulier qu'on peut voir. La colonisation de la Tasmanie par les Britanniques, ça a commencé au début des années 1800, ça a été très violent. Alors déjà, il y a eu le phénomène des maladies apportées par les colons, le choc comme ça... de maladies, mais en fait aussi, il y a beaucoup d'aborigènes qui ont été déportés, il y a même eu en fait des massacres, il y a une guerre, avec des guillemets, parce que c'est tous les historiens ne sont pas d'accord pour l'appeler comme ça, qui s'appelle la guerre noire, où en fait, il y a eu des raids et des attaques par les colons britanniques sur les aborigènes tasmaniens. Et en fait, au bout de 30 ans, la quasi-totalité de la population tasmanienne était éteinte. Donc forcément, surtout en plus du fait que ça a été très rapide, on n'a pu conserver que très peu de traces de ces langues-là. C'est ce qui s'est reproduit en fait, avec la plupart des langues aborigènes. Actuellement, en 2020, il y en a une centaine qui sont toujours parlées. Donc quand même, centaine sur 300, c'est très peu. Et il y en a 90% qui sont considérées en danger. Et en fait, sur ces 100 langues, il y en a que 13 qui sont toujours transmises à des enfants. La plupart, c'est juste des locuteurs, on va dire historiques, des personnes qui parlent toujours ces langues-là, mais qui ne la transmettent plus. Donc, elles sont toutes en fait en voie d'extinction. Une autre grande zone géographique comme ça, et où en fait l'évolution du langue a été impactée à peu près de la même façon, c'est les langues amérindiennes. Et là, on parle quand même de 800 langues sur tout le continent américain. Et là, il y a eu quand même beaucoup de linguistes américains qui ont étudié ces langues-là, malgré les difficultés, encore une fois, les conséquences de la colonisation et l'absence d'écrits assez souvent. Il y a la grande famille des langues Eskimo-Aléoutes, qui sont parlées à l'extrême nord du Canada, en Alaska, au Groenland. Les langues Nadené, qui sont parlées à l'ouest du Canada, en Alaska, mais plus à l'intérieur des terres. Et de manière assez surprenante aussi, dans le sud-ouest des États-Unis. Ça, cette famille-là, ça comprend la langue Navajo, qui est la langue amérindienne avec le plus de locuteurs au nord de la frontière États-Unis-Mexique, qui est toujours utilisée du coup, par les membres de la tribu Navajo dans leur vie quotidienne. Et après, toutes les autres, c'est les langues qu'on appelle la famille des langues amérindes, qui regroupe vraiment toutes les autres langues du continent, où là, en fait, il y a un linguiste américain, Joseph Greenberg, qui a relevé des similarités dans toutes ces autres langues. Par exemple, le pronom de la première personne commence en « n » et le pronom de la seconde personne en « m ». Il y a quelques petites exceptions, mais généralement, il y a d'autres parallèles qui permettent de toutes les rattacher ensemble. Et donc là, on retrouve toutes les autres langues nord-américaines, par exemple les langues algiques, qui comprend des langues dont on connaît un peu le nom, généralement des tribus, le pied noir, le cheyenne. toutes les langues uto-aztèques. Donc là, c'est le sud des États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale. On y retrouve le nahuatl, qui est toujours actuellement, qui a toujours actuellement environ 2 millions de locuteurs et qui était parlé notamment par les habitants de la capitale des Aztèques, Tenochtitlan. C'est Mexico aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, c'est aussi une des rares langues au monde, j'ai vu ça en recherchant et je trouve ça intéressant, dans lesquelles les verbes et les noms ne sont pas distingués. Et apparemment, il y a très peu de langues, donc c'est le cas. Donc ça, encore une fois, c'est une langue dont on a pas mal de traces, parce qu'en fait, avec le contact, la colonisation, là, il y a eu beaucoup, il y a eu une retranscription en langue latine de cette langue, donc on a des écrits. Après, si on descend encore un plus au sud, il y a les langues mayas, parlées sur le territoire de la civilisation maya. Et dont il en reste une encore très parlée, le quiché, qui représente quand même 2 300 000 de locuteurs. On en a un ancêtre en fait assez ancien, le maya classique, et on en a toujours une trace surtout écrite. C'est une des rares langues précolombiennes qui était dotée d'une écriture. Les hiéroglyphes mayas, vous les avez sûrement vus, voilà. Et après, encore plus au sud, on a les langues arawakiennes qui sont parlées en Amérique du Sud, dans les Antilles. Là, très évidemment, comme pour l'Australie, ce que je vous disais, c'est que la colonisation a un énorme impact sur les langues du continent américain. Donc la maladie, la guerre au moment de la colonisation, la persécution qu'il y a eu aussi ensuite. On connaît, on a entendu parler de choses qui sont passées au Canada, aux États-Unis, où on forçait les enfants à aller dans des écoles, à plus apprendre leur langue. Et donc ça, forcément, ça a eu un impact énorme sur le nombre de langues parlées sur le continent. En fait, toutes les langues dont le nom que je vous ai cité là dans cette liste, elles sont en recul constant et beaucoup en fait sont au bord de l'extinction.
Merci beaucoup Axel. Alors on va encore rester loin de l'indo-européen et faire plaisir aux fans de K-pop, donc faire plaisir à Axel et à Louis en écoutant Ewol, qu'on appelle aussi Love Month de Yukika.
I'm not afraid to die.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Vous êtes sur Prune 92 FM et vous venez d'entendre Ewol de Yukika. Et maintenant, Axel va nous faire un petit quiz.
L'étymologie en folie.
Alors du coup, pour étymologie en folie, je voulais vous faire deviner l'origine étymologique de certains mots qui, du coup, ne provient pas de l'indo-européen. Là, j'ai trois mots que je vais vous donner et on va voir si vous trouvez de quelle langue, en fait, ça vient étymologiquement. Il y a le litchi, le thé et aussi, c'est pas exactement un mot, mais une expression, chin-chin. À votre avis? Et essayez de justifier aussi votre...
Les trois viennent de la même langue ?
La même langue, oui.
Ah. Chin-chin, moi je pensais juste que c'était une blague raciste. Ça fait un peu... on se moque de chinois.
C'est le son des verres qui sont trop chers.
Oui, mais vu que là on parle de langues qui sont pas indo-européennes, je sais de... Ça pourrait... les litchis, on peut trouver ça où ? Dans l'océan Indien. Enfin, pas dans l'océan, mais...
Oui.
Est-ce que c'est une famille de langues qu'on trouve en Asie ?
Oui.
Ouais, je sais pas, c'est indien ?
Non.
Mais non, est-ce que ça, c'est de l'indo-européen ?
Ah bah oui, je suis bête, moi.
J'ai pas assez bien écouté, je pense, ce que t'as dit.
Bah, les chis, thé et chin-chin.
Il y avait quoi, là ? Non, pas les trucs, c'est mythique.
Bah, japonais.
Non, non, non.
Tu peux nous dire la première lettre ?
Bah, en fait, on a un peu... parler, donc t'étais pas trop loin tout à l'heure.
Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
L'océan Indien.
J'ai dit les langues sino-tibétaines.
Oui, les c'est tibétains. Ça. Plus le côté sino, voilà, donc les langues chinoises. Litchi.
Comme quoi, je suis bien raciste. Ouais.
Litchi, c'est une déformation du chinois. Li, chi, mais du coup, je présume qu'il se prononce un peu différemment que ça. Et en fait, qui est arrivé en français via le portugais lecha. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques émissions, j'avais parlé comme ça du chinois et qu'il y avait plusieurs mots qui étaient arrivés jusqu'à nous en passant par le portugais. Thé, le thé qu'on boit, je précise, ça vient du Minnan, qui est une langue en fait parlée dans la région de Taïwan. Donc du coup, originalement, ça se prononçait thé. Et après, les néerlandais, ils ont repris le mot en thé. Enfin, je sais pas, il doit y avoir une différence de prononciation. Et c'est venu jusqu'à nous, du coup, pour devenir le thé. Donc, encore une fois, il y a eu un intermédiaire. Et chin-chin, eh bien oui, ça vient du cantonais. L'expression, du coup, chin-chin en cantonais, qui voulait dire « s'il vous plaît » et qui était utilisée pour inviter des gens à table ou à boire. Ah.
C'est donc, vrai que deux verres, ça fait rarement le bruit de chin-chin, Louis.
Bah
si, il y a un côté un peu comme ça. C'est vrai
cling,
que...
cling.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent
mais ça,
que
c'est...
Je pense qu'il y a plein de gens qui viennent et pensent que ça vient du bruit des verres, mais maintenant vous saurez que c'est le chinois. Du coup, maintenant que vous êtes expert en mots en français dont l'étymologie est chinoise, je vais vous donner trois mots. Et il y en a un qui ne vient pas du chinois, et les deux autres, oui. Attention. Ketchup, satin... Bagarre.
Moi, je dirais bagarre.
Je dirais bagarre aussi.
Bagarre, ouais. Vous avez raison. Ketchup, en fait. Alors, moi, j'étais surprise, mais ça vient du coup du chinois ketchup ou ketchup. Et ça voulait dire à la base saumure de poisson. Donc, ça n'a rien à voir avec la sauce telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne parle même pas de tomate, ce qui est assez incroyable. Le satin, encore une fois, il y a eu un intermédiaire, mais cette fois-ci, il y a un intermédiaire arabe. C'était Zaytoun, qui était le nom en fait arabe de la ville de Quanzhou. Et qui voulait dire d'ailleurs olive, parce que ça se prononçait presque comme le nom donné par les Chinois à la ville. Donc, un peu un micmac, mais bon, du coup, ça donne le mot satin à la fin. Et bagarre. Et là, du coup, je prenais un peu d'avance sur le reste de l'émission. Ça vient, en fait, donc, de l'occitan bagaro, qui voulait dire une risque, qui venait du basque patsaré, réunion, assemblée. Et c'est de là que vient le mot bagarre.
Il y a aussi le gros R dans bagarre, qui me laissait penser que c'était pas chinois.
Effectivement, oui. En fait, c'était compliqué. Il y a plein de mots qui existent dans la langue française qui sont étymologiquement liés au chinois, où c'est en fait évident. Genre, j'allais pas vous demander Kung Fu, à votre avis, est-ce que c'est...
Je pensais que c'était iranien, moi.
Toi, bravo. T'as pas vu Kung Fu Panda.
Non, mais voilà. En fait, la plupart des mots qui existent en français, qui sont d'étymologie chinoise, en fait, sont directement liés avec la culture chinoise, la cuisine chinoise. Donc, c'est assez évident. J'ai essayé de trouver des trucs un peu plus compliqués. Genre le ketchup, on n'associe pas ça forcément avec la cuisine chinoise. Donc, voilà.
J'ai vachement hésité pour le ketchup. Donc, bravo. Depuis le début de cette émission, là, vous parlez des familles de langues, mais vous êtes au courant qu'il y a des langues qui n'ont pas de famille. Vous y pensez ?
Je suis sans famille.
Je suis sans famille.
Je m'appelle Rémi.
Je m'appelle Rémi.
Et je me balade.
Et je me balade.
Avec tous mes amis.
Avec tous mes amis.
J'espère que vous sentez mal là maintenant pour ce que vous avez fait. Alors ces langues sans famille, on les appelle les isolas, ou les langues isolées. C'est pas juste des langues dont on ne connaît pas les ancêtres. C'est des langues qui n'ont vraiment pas de famille. En tout cas, on n'a pas pu démontrer scientifiquement leur filiation avec d'autres langues. Merci hein, de vous inquiéter pour leur solitude, pour leurs sentiments, leurs émotions.
Lonely, I'm Mr. Lonely.
J'espère que nos auditeurs et auditrices ont un peu plus de compassion que vous. Mais du coup, je les rassure. C'est pas parce que ces langues sont appelées des isolas qu'elles sont vraiment isolées. Le basque, par exemple, qui est un isola, a été en contact avec les langues celtiques, puis les langues romanes autour de lui, comme le français. Les isolas sont influencés, comme tout le monde, par les langues qui les entourent. Donc tout va bien. On explique généralement l'existence des isolas par les migrations. Il y a certaines langues qui disparaissent au profit des langues dominantes, ne laissant parfois qu'une seule survivante de la famille. Quand cette dernière langue s'éteint, il ne reste alors plus de traces de l'ancienne famille. Un certain nombre de langues mortes semblent avoir été des isolas. Donc c'est des langues qui n'existent plus aujourd'hui, mais on a l'impression qu'elles étaient reliées à aucune autre langue. Je vais vous en citer quelques-unes, et vous devrez essayer de deviner où est-ce qu'elles étaient parlées. Donc si vous me dites le continent, c'est déjà bien. Si vous me dites une région un peu plus précise, vous aurez l'admiration de notre auditoire très fourni. Alors, l'isola de l'Ibère. Alors, je précise L'apostrophe, Ibère. À votre avis, où est-ce que c'était parlé ?
Est-ce que c'est en rapport avec la péninsule ibérique ?
Voilà, qu'est-ce qu'elle est forte !
C'était facile, celui-là.
C'était une langue qui était parlée, qui était présente avant l'invasion romaine. Le Natchez, parlé par les Natchez. Un peuple qui a été détruit au XVIIIe siècle et qui s'est ensuite réfugié avec les Creeks et les Cherokees dans l'Oklahoma. Vous pouvez m'interrompre quand vous avez une idée.
Bah oui, c'est les États-Unis.
Oui, c'est aux States.
Ça, c'est une langue amérindienne qui a disparu assez tard, en fait, qui a disparu au début du XXe siècle. Le sumérien, ça semble être la première, la langue écrite la plus ancienne. La forme écrite qu'on a, c'est en cunéiforme. Axel nous en avait parlé aussi dans une émission précédente. Le sumérien était parlé en basse Mésopotamie. Donc là, je vous le dis, mais vous pouvez peut-être me dire où c'est plus précisément la
basse
Mésopotamie.
C'est l'Irak actuel.
C'est ça. Elle a été supplantée par l'Acadien ensuite, mais ça n'a rien à voir avec le Canada. Et c'est resté une langue sacrée et savante en Mésopotamie jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et enfin, la dernière, l'élamite. Là, pareil, je vous donne la réponse, c'était parler en élam. Parce que c'est clair, où est-ce que c'est ? Jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'était la conquête de la Perse antique par Alexandre le Grand.
Donc, du coup, c'était en Perse.
Oui. C'est ça, ouais. L'élam, en fait, apparemment, c'est la partie sud-ouest du plateau iranien. Bon, bah, vous êtes beaucoup trop fort et forte. Je suis un peu déçue. Et là, on l'a vu avec ces isolas qui sont des langues mortes maintenant, qu'il y a des isolas sur tous les continents. À votre avis, sur quel continent est-ce qu'on trouve le plus d'isolas différents ?
L'Asie ?
Non.
L'Afrique ?
Non.
Non, je t'ai dit plus tôt dans l'émission qu'il y avait une énorme famille.
Oui, c'est vrai, l'Océanie.
Il n'a rien écouté, mais c'est l'Océanie. En fait, dans l'Océanie, il y a l'air papou, c'est la Nouvelle-Guinée et puis des îles voisines. On parle des langues très différentes les unes des autres, qu'on ne peut pas en fait, rattacher à une même famille. enfin toutes ensemble, il y aurait dans l'ère papou une quarantaine de familles linguistiques et en plus une trentaine d'isolas, comme le, alors pareil comme toi Louis, je vais les prononcer n'importe comment, le Dibiyasso, le Kimki ou l'Usku. Et donc à l'inverse, à votre avis, quel est le continent où il y a le moins d'isolas?
L'Europe.
Ouais, c'est l'Europe. Aujourd'hui, il n'y en aurait plus qu'un seul, le Basque. Donc parler au Pays Basque. Le Pays Basque, c'est à cheval entre l'Espagne et la France, plutôt vraiment vers le sud-ouest-ouest-ouest de la France. En basque, la langue basque, on l'appelle l'euskara. Auparavant, pendant l'Antiquité, on l'appelait l'aquitain. Et puis au Moyen-Âge, lingua navarrorum, la langue des Navarrais. Le basque était présent sur le territoire du Pays Basque avant l'arrivée des langues indo-européennes. Et donc c'est une langue très différente des autres langues indo-européennes qui sont autour. Parce que c'est une langue agglutinante. Donc en fait, on rajoute des suffixes à un mot, là où en français, on mettrait des mots en plus. Il n'y a pas de genre, de masculin, de féminin, dans la plupart des cas. Aussi, on accorde le verbe avec les compléments, direct ou indirect. Par exemple, dans « je mange une pomme », on va accorder le verbe avec une pomme. Ce qui nous paraît très étonnant. Mais en basque, ce n'est pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, généralement, l'objet, une pomme, on va le trouver avant le verbe. Au niveau du vocabulaire, c'est moins dépaysant. Il y a une grande partie du vocabulaire qui vient du latin, du gascon, de l'aragonais, de l'espagnol, du français, des langues autour, en fait, qu'on connaît souvent un peu mieux. C'est une langue qui est très parlée, en fait. Elle est parlée par 28,4% de la population au Pays Basque. Et elle est comprise par 44,8%. Alors, il y a beaucoup de linguistes qui se sont intéressés, qui ont essayé de savoir pourquoi est-ce que la langue a survécu jusque-là. D'après Hector Iglesias, c'est peut-être parce que les Basques étaient des alliés des Romains et qu'ils ont pu ainsi mieux préserver leur langue. Et puis, si elle est toujours très vivante aujourd'hui, c'est grâce à la reconnaissance qu'elle a. En Espagne, c'est une des langues officielles du Pays basque espagnol. Et du coup, l'enseignement du basque est très développé. En France, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas reconnu comme une langue officielle, parce qu'on connaît la politique de la France envers les langues minorisées, les langues régionales. Et il y a de l'enseignement du basque, mais ce n'est pas du tout aussi fort qu'en Espagne. On peut trouver, comme pour, par exemple, chez nous, le breton ou le gallo, des médias en basque. On va écouter un petit exemple du magazine d'actu sur France Bleu.
Euskal Magazina. Euskal Magazina. Franck de Lozorekin.
Eguerdion eta ongietorri deneri ortsirala da asteburuaren atarian, asteburua kirolarekin, gaur hemen kirola nagusi, rugbizaleak donostiarate begiratzen dute, Baiona eta Paue, antxe lehiatuko direlakotz biarratsaldian.
Bon, c'est clair, vous avez compris de quoi ça parle.
Oui, oui, oui.
De toute façon, c'est sûrement la réforme des retraites ou alors Nantes-Toulouse en foot. Bien sûr, il y a aussi des isolas sur d'autres continents. Que l'Europe ou l'Océanie, en Afrique, en Asie, en Amérique, mais bon, je ne vais pas vous faire la liste complète. Comme nous, les langues ne sont pas éternelles. Parfois, une langue est entourée d'une famille aimante et puis un jour, elle se retrouve seule, orpheline. Elle devient une langue isolée. C'est ce qui est arrivé à la langue Pira, la langue d'un peuple qui vit au bord de l'Amazone. En fait, c'est la dernière langue encore vivante de sa famille, la famille des langues Mura, dont les autres langues ont disparu récemment. Donc ça fait que certaines langues qui n'étaient pas des isolas en deviennent. Une autre raison pour laquelle il y a des langues qui passent de isola à pas isola, c'est que c'est les recherches linguistiques. Le statut d'isola fait presque toujours débat. Généralement, les linguistes ne sont pas toujours d'accord. Par exemple, pour le sandawa, parlé en Tanzanie, pour la plupart des linguistes, c'est un isola. Mais pour Joseph Greenberg, dont nous parlait Axel tout à l'heure, c'est langue coïssant, parce qu'il y a des petits clics qu'on fait avec la langue dans la prononciation, comme les autres langues coïssantes. Généralement, quand c'est que quelques théories et que les preuves n'ont pas convaincu la communauté scientifique, on considère toujours la langue comme un isola. Mais par contre, quand les preuves sont assez fortes et qu'il y a beaucoup de recherches sur le sujet, les linguistes peuvent décider de modifier la catégorie d'une langue et de la ranger dans une autre famille de langues, par exemple. C'est ce qui est arrivé au coréen, qu'on a longtemps considéré comme la langue isolée la plus parlée. Désormais, le plus souvent, on la range dans la famille des langues coréaniques, qu'on appelle aussi les langues Puyo-Han. En fait, les autres langues de cette famille sont pour la plupart mortes. Il y en a deux qui sont encore vivantes, le Jeju et le Yukjin. Mais donc là encore, ça fait débat. En fait, pour certains linguistes, ces deux langues sont des langues à part entière. Donc du coup, ça fait une famille de langues. Mais pour d'autres, c'est simplement des dialectes du coréen. Et donc du coup, à ce moment-là, le coréen resterait un isolat. Donc, débat. Une autre langue qui a eu une histoire mouvementée, c'est la langue Ket, parlée en Sibérie. C'est une langue yénisséienne, du nom de la rivière Yénisseï, comme le yug. Mais le yug a disparu dans les années 90. Donc du coup, si vous avez bien suivi, ça veut dire que le Ket est devenu un...
Isola.
Exactement. Sauf que, il y a des linguistes qui ont rattaché les langues yénisséiennes aux langues nadéné, dont tu nous parlais tout à l'heure, Axel, une famille de langues amérindiennes parlées au nord-ouest de l'Amérique. Et donc, certains linguistes considèrent que, en fait, les langues nadéné et les langues yénisséiennes, c'est les deux branches d'une ancienne famille qui était présente des deux côtés du détroit de Bering, du côté russe et du côté américain. Donc, c'est pas facile de savoir si une langue est réellement un isola. Ça dépend de ce qu'on considère comme une langue, de la différence entre langue et dialecte selon nous, mais aussi des données disponibles. Il y a une partie des isolas qui est peut-être reliée à d'autres langues dont on n'a tout simplement pas de traces. Mais ce n'est pas si grave, gardons un peu de mystère. J'espère que vous avez reconnu le générique de Martin Mystère. Une langue isolée peut donc être parlée par simplement des dizaines de personnes, comme des milliers aussi. Elle peut être parlée sur une île au milieu du Pacifique ou être entourée de plein d'autres langues avec qui les échanges sont nombreux. Car oui, n'oublions pas que les langues ont des amis.
Langue de prune.
On va réécouter un morceau qu'on vous a déjà passé dans notre deuxième émission. Mais ce n'est pas la même version, parce que j'étais contente d'avoir encore une excuse pour la passer. C'est un chant basque. À l'origine, ce n'est pas spécialement un chant militant, mais c'est devenu un peu l'hymne de la langue basque, parce que c'est un chant qui est tiré d'un poème qui s'appelait Choria Chori, qui a été écrit sur la serviette d'un restaurant en 68, alors que les franquistes interdisaient l'utilisation du basque. C'est Egoac.
La 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 la
Vous êtes sur Prune 92 FM et vous venez d'entendre Egoac du groupe Ontuac. Et maintenant, on va écouter Louis nous parler de sa Normandie natale.
D'ici et d'ailleurs.
Ah, en effet, j'étais contraint et forcé aujourd'hui de vous parler de la Normandie. C'était bien malgré moi. À la base, je voulais vous parler d'autre chose, mais il y avait trop peu d'informations. C'est triste. Alors, la manière dont ça va se présenter, ça va être un petit quiz. Enfin, pas exactement un petit quiz, ça va être un question-réponse. Parce que je trouve ça assez drôle de comparer un peu ce que nous on dit en Normandie par rapport à ce que les autres disent. Surtout que parfois ça choque un petit peu. Bon, il y en a, on s'y attend, hein, ou en tout cas vous l'avez déjà entendu. Il y a déjà eu des, je crois que c'était Étymologie en folie ou D'ici et d'ailleurs déjà sur la question. Par exemple, pour passer la serpillière.
Oui. Ah oui.
Vous vous souvenez ce qu'on dit en Normandie pour passer la serpillière? Bon, quand même.
Il y a des choses qu'on préfère oublier.
C'est un peu exagéré.
Non, qu'est-ce que vous dites déjà?
C'est passer la toile.
Ah oui,
on passe la toile. Ce qui est bien plus sensé que je ne sais quel autre mot curieux qu'on peut trouver. Genre, je crois qu'ils disent, dans l'Est, ils disent passer le torchon.
C'est la Oissin.
Ouais, la Oissin, ça n'a aucun sens. Alors que passer la toile, on voit de quoi on veut parler, une toile.
Bah, maintenant, ça n'a plus forcément une forme de toile, les serpillères.
Oui, mais sans fût. Donc voilà, on a raison, vous avez tort. Mais il y a aussi des expressions qui peuvent... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression... qu'on dit en dehors de la Normandie, mais on n'accorde pas nécessairement le même sens à ça. Genre, si je vous dis « à tantôt », ce qui est très utilisé en Normandie, vous avez déjà entendu « à tantôt ».
En plus, c'est à « on se voit plus tard dans la journée ».
Alors voilà, la plupart du temps, on va penser à ça. Il y a certains endroits où on pense à ça aussi en Normandie. Mais « à tantôt », ça veut surtout dire « à cet après-midi », chez nous. C'est très précis.
Mais ce n'est pas quelque chose qu'on dirait ici.
Ah non, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous dites ici. Mais « à tantôt », quand on y pense, souvent, en effet, quand c'est utilisé en dehors de la Normandie, on pense à « plus tard ». Mais...
Ok.
Ça veut dire « à cet après-midi », donc checkez vos facts un petit peu.
Moi, j'ai jamais trop su chez nous ce que ça voulait dire. Du coup, je savais pas trop quand est-ce qu'on me donnait rendez-vous.
Bon. Et c'est pareil, genre quand il pleut beaucoup, on a tous des expressions pour ça, pour dire quand il pleut beaucoup. Ou vous dites juste il pleut beaucoup ici. Vous êtes hyper descriptif. Vous faites un peu vos anglais.
Il pleut des cordes, vache qui pisse.
Bah vache qui pisse. Bah ouais. Ça c'est normand.
Ah bah ouais.
Voilà.
Bah oui, les vaches.
On dit « il pleut comme vache qui pisse ». Et pendant très longtemps, je n'ai entendu quasiment que ça, avant de sortir de la Normandie. Je ne savais pas qu'on pouvait juste dire « il pleut beaucoup ». Il pleut comme vache qui pisse, parce que ça... Ça fait sens, non? Vous n'avez jamais vu une vache qui pisse?
Oui, il y a des vaches aussi ici, tu sais, en fait, Louis. Hein. C'est pas obligé de nous mépriser.
Ouais, enfin, on dit parfois en Normandie qu'il y a plus de vaches que d'habitants. C'est un peu exagéré, c'est peut-être vrai pour la Creuse, mais... Et va y avoir des petits mots, quoique en vrai il y a aussi, vous connaissez des expressions comme barrer la porte. Bon, c'est pas en Normandie qu'on dit ça, barrer la porte, mais je crois qu'on a fait aussi un étymologie en folie sur la question.
Clencher la porte.
Voilà, en Normandie c'est clencher la porte. Ah. Vous voyez qu'on utilise quand même les termes les plus sensés. Parce que la clenche, tu fermes bien ta porte, faut qu'elle soit clenchée. Il va y en avoir où même moi, je connais pas trop, hein. Où là ça se rapproche juste du nord, hein, parce qu'il y a aussi une langue normande, une langue régionale normande. Bon, vu que la République est une et indivisible, on la parle de moins en moins, mais genre ça va être des expressions du type arquer au lieu de marcher. Alors ça, c'est vraiment, faut parler normand, hein, pour connaître, hein.
Ouais. C'est la Normandie profonde.
Ah bah là c'est clairement la Normandie profonde. On n'est plus à Deauville, là on est dans les campagnes, hein. Il y a aussi, alors ça, j'ai lu ça, je suis presque tombé par terre, c'est la rougie du C mais la marassée. C'est que du français, à part C, et ça veut dire pour dire qu'il va faire beau demain. La rougie du soir mais la mer à sec. Et même quand c'est traduit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est quand même beau, hein. Et puis, bon, voilà, il y a aussi... Ah oui, non, il y en avait une autre aussi, c'est « check tubé ». C'est quand même beau. Moi, j'avais l'impression, limite, que ça faisait plutôt nord, mais encore plus nord que la Normandie, genre Nord-Pas-de-Calais, « check tubé ».«
Check tubé ».
Et ça veut juste dire « qu'est-ce que tu bois ».
Oh.
C'est ouf, hein.
Pas mal. On va à l'essentiel, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Bon, allez. Je vous ai assez ennuyé avec la Normandie. On va peut-être passer à autre chose, mais sachez que c'est une très belle langue, de très belles expressions. Et c'est quand même plus sympa de dire passer la toile que passer la serpillière.
Merci Louis pour ton avis sur la question très partielle. Donc lors de cette émission, on a discuté un peu de comment les langues sont reliées entre elles, comment une même langue peut se modifier pour en donner d'autres, comment certaines survivent et d'autres non. On va arrêter un peu les métaphores biologiques et là on va parler de concret en fait. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait des familles de langues ? Par exemple, est-ce que ça a été plus facile pour vous d'apprendre des langues plus proches dans une même famille ? Je parle de voilà, quand on a pu apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le latin, collège.
Pas nécessairement. Enfin, ça va dépendre surtout de la difficulté de la langue en elle-même. Hein. Quand je vois le coréen, t'as un alphabet très simple.
Oui, mais justement, c'est complètement différent. C'est ça. C'est que c'est sûr qu'apprendre même l'anglais. Alors après, l'anglais aussi, c'est parce qu'il y a plein de mots qu'on transfère de l'un de l'autre. Même l'anglais, l'espagnol, l'allemand, qui sont bon, les langues les plus apprises en France, il y a une facilité par rapport justement le coréen. Où, bon, je dis ça parce que j'ai juste commencé le coréen, où il y a plein de choses, en fait, c'est juste totalement différent et il y a une vision, en fait, même de comment tu parles qui est complètement différente. Comme ce que je citais, la langue là où il n'y a pas de différence entre les noms et les verbes, quand tu apprends la langue, tu es obligé complètement de changer la manière dont tu penses, là où au sein d'une même famille de langues, en fait, il va y avoir moins de gros écarts.
Je trouve que ça dépend surtout particulièrement de la difficulté de la langue en elle-même, parce que en effet, il faut réfléchir différemment, mais une fois que tu prends le cap, c'est comme pour les autres langues. Oui, là où, bon, en vrai, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, parce que pour reprendre l'exemple du coréen, genre ils ont un mot pour dire 10 000, et quand tu dis 100 000, faut pas dire 100 000, faut dire 10 000. Faut y penser constamment. Mais quand tu compares au chinois, où t'as pas d'alphabet, si je ne me trompe pas, tu as juste des signes pour chaque terme, pour chaque concept et tout ça, et du coup tu dois apprendre à chaque fois un mot pour chaque chose, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Oui, bah oui, mais c'est aussi en fait justement le fait que ce soit complètement, enfin, que ce soit une famille de langue complètement différente de la nôtre qui détermine la difficulté. Après là, tu as pris un des extrêmes, parce que c'est connu pour être une des langues les plus difficiles.
Tout de suite on m'accuse d'extrémisme.
Mais
on peut plus rien dire.
Pour les personnes qui, de manière native, parlent une des langues chinoises, bah, apprendre une autre langue chinoise, c'est beaucoup plus simple que d'apprendre le français.
Même au niveau du vocabulaire, quand même, tu as plein de mots qui se ressemblent. Même juste si tu vas en Espagne, il y a des mots que tu vas reconnaître.
Ah oui, mais évidemment. L'espagnol et l'italien, je pense que c'est pas trop dur pour nous les Français.
Même l'anglais, en vrai.
On va s'arrêter là dans la discussion parce que je sens que les esprits s'échauffent et j'ai peur que ça revienne aux mains. Mais on se retrouve le 30 mai pour notre prochaine émission. Et puis d'ici là, profitez de la vie parce qu'en mai, on fait ce qu'il nous plaît.
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
très
dans
vite
le car,
dans le cockpit.